Installez-vous.
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 Vous êtes bien sur
Radio, Radio Moulin. Moulin.
Vous êtes bien sur Radio Moulin.
Vous êtes bien sur Radio, Radio Moulin.
Et oh, Moulin la radio.
Bonjour habitants et habitantes du quartier, moi c'est Souleymane, votre animateur radio. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle dédiée à la Journée internationale des droits des femmes. Leur lutte, leur résilience et leur espoir. À travers cette journée spéciale, nous mettons en lumière les histoires de ces femmes qui, malgré des défis inimaginables, continuent de se battre pour leur dignité, leurs droits et leur place dans la société. Dans cette première partie de l'émission, nous avons l'honneur de donner la parole à des femmes militantes pour l'égalité des droits des hommes et des femmes que j'ai rencontrées lors de la manifestation du 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous laisse écouter. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire que représente pour vous la Journée internationale des droits des femmes ?
Un moment collectif où on crie notre colère et on est ensemble, on est solidaires entre meufs et voilà.
Journée de lutte,
ouais, voilà.
Et de se rappeler que tout n'est jamais acquis et qu'il y a beaucoup de personnes avant nous qui se sont battues pour beaucoup de choses. Et c'est à la fois genre une commémoration, une célébration et... un carrefour de tout ça, et journée de lutte, et pas oublier que c'est très politique.
Bah, un espoir, et je trouve qu'en fait, ça ne devrait pas exister, ça devrait être tous les jours, voilà, c'est aussi simple que ça.
Un rassemblement autour de ces droits essentiels, en termes d'égalité homme-femme, en termes de liberté, en termes de notion du corps qui appartient à la femme, et qui n'appartient pas... au diktat général du patriarcat. Donc, mon corps m'appartient, ça me semble le slogan le plus important de cette journée.
C'est une journée hyper importante et vous avez raison de rappeler que c'est bien la Journée internationale des droits des femmes et pas la Journée de la femme ou pire, la fête de la femme, parce que c'est une journée de lutte. C'est pas une journée où on célèbre des choses. On peut célébrer les victoires passées, mais il y a encore beaucoup de batailles à mener. Et donc, ça reste une journée de lutte et elle continuera d'exister tant qu'on n'atteindra pas l'égalité entre les femmes et les hommes.
Quels sont les plus grands obstacles que les femmes rencontrent aujourd'hui dans la société ?
Alors, il y en a beaucoup. Je pense surtout à mes consoeurs palestiniennes et j'en passe qui n'ont pas la chance de vivre en France. C'est beaucoup d'obstacles, mais principalement le patriarcat. C'est à chaque fois beaucoup de ces obstacles découlent du patriarcat. Donc le principal, c'est le patriarcat, pour faire court.
Oh là là, mais elles ont tous les obstacles. Elles ont l'obstacle, le premier énorme obstacle, c'est le patriarcat, dont découle tout le reste, c'est-à-dire un obstacle dans l'accès au travail, dans le salaire, dans le fait de rencontrer des difficultés sous prétexte qu'elles font des enfants, alors qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on fasse des enfants. Enfin, les obstacles sont multiples et le principal, c'est le patriarcat.
Il y en a énormément des obstacles qu'on rencontre encore en tant que femme. Si j'essaye de prendre des exemples concrets, ça peut être le fait de pouvoir rentrer chez soi seule à 2h du matin sans se poser la question de quelle rue on emprunte parce qu'on a peur d'être embêté, voire agressé. Ça peut être en milieu professionnel quand on prend la parole en réunion et qu'on nous écoute moins que les hommes, ou alors que des hommes qui ont franchement pas des choses très intéressantes à dire prennent toute la place. Ça, c'est voilà des choses du quotidien que toutes les femmes expérimentent. Prendre le métro et avoir peur que quelqu'un se frotte d'un peu trop près. Avoir peur de se prendre une remarque dans la rue, ça nous est tout arrivé. Avoir peur d'avoir des gestes déplacés, ça nous est tout arrivé aussi. Après, il y a des choses beaucoup plus grave, les violences sexuelles et les viols. L'immense majorité des victimes sont des femmes, l'immense majorité des agresseurs sont des hommes. Voilà, il faut se poser la question.
Et comment pensez-vous que nous pouvons changer cela dans nos communautés locales au monde ?
Moi, je pense que tout ça est très lié aussi aux luttes anti-FA, enfin, anti-colonialisme. Donc, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a le fascisme partout et à l'État, dans les médias et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est très lié à ça. Et qu'est-ce qu'il faut...
Changer toujours inclusif et intersectionnel et pas penser qu'à ses propres droits et englober le plus de personnes possible quand tu cherches à lutter pour quelque chose.
Bah en fait c'est personnellement je trouve que ce sera petit à petit c'est un très long work in progress mais c'est aussi par le vote et par la mobilisation comme aujourd'hui c'est déjà énorme tout le monde qui a là. Et on y croit.
Pour la dernière question, quelle femme vous inspire ?
Quelle femme m'inspire ? La première qui me vient comme ça, c'est Simone Veil, mais il y en a tellement d'autres. Il y a aussi toutes les femmes qu'on ne connaît pas, celles de notre groupe de femmes au Récoupette, par exemple. On va mettre femme avec un S. Hein. Toutes les femmes m'inspirent.
Dernièrement, Gisèle Halimi, je trouve que c'était super fort pour son procès. Et aussi, Un peu ma mère, un peu tout le monde, toutes les femmes et entre deux qui sont autour de moi, elles sont toutes très inspirantes.
Merci beaucoup et merci d'avoir pris le temps.
Les témoignages de ces femmes illustrent à quel point elles sont courageuses et déterminées malgré les obstacles énormes auxquels elles sont confrontées. Leur voix résonne non seulement comme un appel à l'action, mais aussi comme un symbole d'espoir pour toutes celles et ceux qui croient encore que le changement est possible. Leur résilience nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, les femmes trouvent des moyens de se battre pour un avenir meilleur. Dans cette deuxième partie de notre émission, nous sommes partis au vernissage de l'exposition « Tenir à un fil » à la Maison de Folie Les Moulins. L'inauguration de l'exposition annonce le lancement d'un temps fort au soutien aux femmes afghanes, organisé en partenariat avec l'association culturelle franco-afghane. Des rencontres ainsi que des projections de documentaires et des films sont organisées du 1er au 16 mars 2025 à la Maison de Folie Les Moulins.
Martine Aubry, maire de Lille.
Bien, bonjour à tous et à toutes. Très heureuse avec Marie-Pierre Bresson, l'adjointe à la culture et relations internationales, de vous retrouver à la Maison Folie de Moulins, comme on a déjà eu d'ailleurs une exposition pour montrer le travail des artistes afghans et afghanes qui sont actuellement à Lille. Et là, nous sommes là pour le vernissage de l'exposition « Tenir à un fil » qui va être présentée ici jusqu'au 16 mars. Donc, en dehors de Marie-Pierre, je salue Alexandra Lechner, Sylviane Delacroix, Bernard Charles, voilà, qui sont les autres élus qui sont là pour l'instant. Je pense que d'autres vont arriver. Les membres de l'association culturelle franco-afghane, et monsieur Approché, voilà. Monsieur Jean-Marc Armand, j'ai vu Françoise Colliche, mais elle reste là, voilà, trésorière de l'association. Je remercie aussi tout particulièrement Marie-Odile Laurent, artiste, plasticienne et mosaïste qui assure le commissariat de cette exposition. Nous allons fêter, si je puis dire, la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, et nous avons souhaité, comme nous le faisons chaque année, de rendre hommage aux femmes afghanes, comme nous le faisons aussi pour les femmes iraniennes, mais en l'occurrence aux femmes afghanes, et de mettre à l'honneur pendant cette semaine autour du 8 mars un certain nombre d'artistes afghans au moment où la voix de ces femmes est muselée dans leur pays, on les rend totalement invisibles. incapable évidemment de pouvoir sortir de chez elle et même évidemment surtout d'étudier ou de travailler. Nous avons fait une année encore, malheureusement, le symbole de cette journée internationale de la femme, le 8 mars, nous avons fait le choix, une fois de plus, de considérer que les femmes afghanes, c'était la voie que nous voulions défendre pendant cette semaine et donc samedi prochain. Il s'avère en effet que depuis le 15 août 2021, n'est-ce pas Wally, je me souviens de cette date comme si c'était hier, à Kaboul, les talibans sont rentrés à nouveau. Et là a commencé, je pense que les Européens ne se sont pas rendus compte tout de suite. Certains ont même dit les talibans sont plus souples qu'auparavant. Mais quand on connaît les talibans, on ne peut pas croire cela, pas un instant. Et on a vu finalement à la fois la façon dont ils ont mis l'emprise sur la société et surtout sur les femmes. Sur les femmes, je disais, qui sont muselées, mais qui n'ont finalement plus aucun droit. Pas le droit de faire des études après l'école primaire, pas le droit de sortir dans la rue seule, pas le droit de travailler, pas le droit de rien, de ce qu'une femme peut avoir envie de faire, y compris de sortir avec ses amis. Pas le droit de manifester, évidemment, pas le droit de réagir. Mais ce dont on se rend compte, c'est que au-delà de la situation de ces femmes, et nous sommes très heureux d'en accueillir et d'accueillir des familles qui étaient sous le joug des menaces des talibans, parce que justement c'était des acteurs de la vie libre et démocratique en Afghanistan. Nous avons aussi accueilli des artistes et des jeunes femmes, et encore très récemment, l'année dernière, plusieurs femmes que nous avons réussi à faire rentrer ici, ce qui n'a pas été extrêmement facile. Les femmes en Afghanistan doivent devenir invisibles. On ne veut pas les voir. Faut pas, voilà, elles restent chez elles sous le joug des hommes en fonction de. Voilà, ce sont des violences quotidiennes, des violences morales qui sont tout à fait quotidiennes et qui sont invraisemblables dans ce pays. Alors, les législations nationales et internationales ont avancé sans qu'on voit vraiment les résultats. Je le dis, en France, il y a eu une décision en juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile qui permet aux femmes et aux jeunes filles afghanes, même si elles n'ont rien, elles n'ont pas à prouver qu'elles ont eu des menaces ou autres, il suffit d'être femme et afghane pour pouvoir avoir le droit à être réfugiée. Et dans la même idée, la Cour de justice de l'Union européenne a repris la même chose. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui plus de 700 jeunes femmes qui sont à Téhéran et qui n'arrivent pas à obtenir un visa. Je suis en relation avec certaines d'entre elles. Elles ont eu beaucoup de mal à traverser l'Afghanistan, le Pakistan, pour arriver à Téhéran, où il y a encore quelques mois, on pouvait encore obtenir, et d'ailleurs certaines jeunes femmes qui sont arrivées l'année dernière ici venaient de Téhéran, nous avons réussi à avoir des visas. Là, ce n'est plus possible. Donc on sait que le Pakistan a renvoyé les Afghans chez eux, et actuellement en Iran les choses ne se passent pas tellement mieux, et l'ambassade de France ne donne pas de visa, alors que nous avons notamment un grand nombre d'étudiantes qui ont pu passer les checkpoints des talibans, passer les frontières et arriver à Téhéran. Voilà, je crois qu'il faut qu'on pense à elles aujourd'hui, parce qu'elles vivent de manière souvent dans la rue, sous des porches, elles attendent, le gouvernement français ne donne pas les autorisations, malgré cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui devrait dire, vous êtes afghane, vous êtes femme, vous allez pouvoir avoir un visa et vous serez réfugiée, comme nous avons obtenu les statuts de réfugiés dans toutes celles qui sont rentrées au moment de la prise du pouvoir des talibans. Donc nous avons accueilli à l'époque plus de 110 Afghans, des familles dont nous n'avons pas donné les identités, car beaucoup étaient effectivement recherchés, puis comme je l'ai dit, des journalistes et des artistes, qu'on a présenté d'ailleurs ici même. Aujourd'hui, eh bien, je dirais que non seulement l'intégration se passe bien, mais je viens de voir une jeune fille là qui passe son bac cette année, mais on en a à l'université, certains travaillent. De leurs propres talents, je pense par exemple aux artistes, ou bien ont trouvé du travail. Ceux qui sont scolarisés aujourd'hui à l'université, après qu'on ait fait un parcours de transition à l'université de 2 ans pour acquérir véritablement le français, peuvent rentrer dans les voies qu'ils ont choisies, droit ou en médecine ou ailleurs. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de résilience tout en pensant tous les jours à ce qui se passe pour leurs amis, pour leur famille, pour les femmes afghanes qui sont évidemment au pays. Voilà, je dis ça avant de dire pourquoi cette exposition, j'en dirai pas longtemps puisque vous parlez après, et c'est vous qui allez présenter l'exposition. Mais ce que j'ai vu là, cette exposition tenir à un film, cher Marie-Odile Laurent, nous a tenu très à cœur. Mosaic for Afghan Women, c'est vraiment, ça tombe à pic juste avant le 8 mars, si je puis dire. Sachez aussi que nous aurons l'occasion pendant cette semaine de voir des films sur les femmes afghanes, de faire une autre exposition. Bref, comme je l'ai dit, les femmes afghanes seront à l'honneur dans cette semaine où on doit se battre pour la liberté et les droits des femmes. Ces broderies millénaires, ces coloris qui sont ceux de ces robes, de ces vêtements magnifiques que portent ces jeunes filles et ces petites filles autour de nous. Je voudrais les remercier. Donc, il s'agit d'Asma, de sa fille Elisa, Asma et ses taillés, Eva, Habiba, Masouma, Mina, Monaza et Nissina. Je pense qu'on peut les applaudir, elles sont magnifiques. Que nous nous retrouvons tous autour du documentaire afghan de la journaliste Solène Chalvon-Fioriti, qui a eu le grand prix du 31e Festival du Grand Reportage d'Actualité. C'est un témoignage vraiment au coup de poing sur la situation des femmes en Afghanistan, où on voit des femmes appelées à se marier de force, y compris très jeunes, avec des talibans, par exemple. Mais on voit aussi la résistance formidable de femmes afghanes qui continuent à manifester, même si c'est moins en moins facile, et qui continue à se battre, à se rencontrer, à se soutenir pour essayer d'attendre un monde meilleur. Je voudrais juste dire que nous avons ici à Lille, nous avons et nous portons un soutien indéfectible aux Afghans. Et si un certain nombre d'entre elles, plutôt, surtout, obtenaient des visas, nous les accueillerons comme nous avons accueilli les autres il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, c'est très très compliqué, comme je le disais, malgré les relations que nous avons, la pression que nous faisons, car quand j'ai mis la main sur une famille que je veux faire entrer, je ne lâche pas. Mais aujourd'hui, vraiment, les choses paraissent fermées. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Et je pense notamment à toutes ces jeunes femmes qui sont actuellement à Téhéran en train d'attendre. Voilà, en tout cas, l'équipe municipale et Lille apportent totalement son soutien. Plus de 100 Afghans que nous avons fait revenir et que nous accompagnons, bah, ce sont des Lilloises et des Lillois comme de notre famille, quoi. On les connaît tous et on est vraiment heureux qu'ils aient pu échapper pour beaucoup à des menaces continues. Cette manifestation, c'est dire la liberté ne tient qu'à un fil finalement. Et je crois qu'il faut qu'on se dise tous que nous qui bénéficions de la liberté, ben, n'oublions pas qu'elle ne tient qu'à un fil, et notamment dans certains pays. Et puis vraiment, vivent les femmes afghanes. Leur combat est aussi le nôtre, et on va leur rendre hommage pendant toute cette semaine. Voilà, merci beaucoup.
L'exposition, plasticienne et mosaïste, responsable de la coordination du projet Mosaic for Afghan Women pour la France.
Je vais appeler Françoise Colich, et puis Fatemé, parce que sans vous, le travail n'aurait pas pu se faire non plus. Merci de nous rejoindre toutes les deux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus tous aussi nombreux pour ce vernissage d'exposition. Pour l'organisation de cette exposition, Tenir à un fil, je remercie au nom de Mosaic for Afghan Women, Madame Martine Aubry, maire de Lille, et tous les membres de son équipe, aussi bien les élus, excusez-moi, je ne vais pas reprendre tous les noms, ils ont déjà été dits, et puis bah, aussi vos équipes de professionnels. Je remercie également la Maison Folie de Moulins pour sa disponibilité et son investissement, Madame Dernoncourt, Cédric, Chloé et Alicia. Je remercie également Jean-Marc Aimant, président de l'association culturelle franco-afghane. Je remercie aussi Françoise Colich, la trésorière. et Fatemeh, poétesse afghane, qui s'est particulièrement, qui a répondu vraiment à une de mes demandes, à laquelle je tenais, c'était d'avoir des costumes en résonance avec les panneaux de mosaïque. Et encore un plus, on a même merci aussi aux jeunes filles, aux petites filles, aux femmes pour leur présence et pour leur présentation des costumes. Voilà, donc sans tout ce monde, cette exposition à la Maison Folie n'aurait pas eu lieu. Grand merci d'avoir entendu mon appel à ce projet d'exposition, Jean-Marc et Françoise, tenir à un fil. Alors, pour revenir un petit peu sur la genèse du projet, Mosaic for Afghan Women est un regroupement mondial d'artistes mosaïstes qui travaillent ensemble afin d'attirer l'attention sur le sort des filles et des femmes afghanes qui subissent des violences physiques, psychologiques, sont privées d'éducation, de travail, de toute liberté et de dignité. Ce projet, Tenir à un fil, a été initié par Badi Essa Djabala en Tunisie et par Madeleine Turgeon au Canada en 2021, suite à la prise du pouvoir des talibans. Pour la réalisation de cette immense fresque mondiale, un appel à participation a été lancé via les réseaux sociaux. L'idée était de s'inspirer des broderies et coloris chatoyants des tenues traditionnelles afghanes qui arborent des motifs complexes, et afin de réaliser une gigantesque écharpe en mosaïque. Je crois qu'on compte 14 ou 15 ethnies différentes en Afghanistan, c'est ça? Avec autant de production de broderies et autres motifs. Alors cette œuvre collective et participative internationale permet symboliquement de faire perdurer une partie de la culture afghane au-delà des frontières du pays. Au total, 45 pays ont participé, 1500 artistes mosaïques aux quatre coins du monde et des expositions sur toute la planète, au Japon, en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. En France, nous étions 213 artistes à participer et aujourd'hui, nous inaugurons la cinquième exposition de ces panneaux en France. Aujourd'hui, les filles et les femmes afghanes n'existent plus dans l'espace public. Lorsqu'elles sont chez elles, elles ne peuvent plus être dans une pièce dont la fenêtre donne sur l'extérieur. Moi, j'ai calculé, je ne peux plus vivre dans ma maison. Les filles doivent quitter l'école à 12 ans. Elles n'ont plus accès aux études ni à l'université. Les études de médecine, d'infirmière, de sage-femme leur sont interdites. Ce qui rend impossible de soigner les femmes, car en Afghanistan, seules les femmes peuvent soigner les femmes. La mortalité maternelle, aujourd'hui, est en pleine explosion. Voilà, j'en ai la chair de poule. Moi, mon but, pourquoi j'ai participé à ce projet, pourquoi j'ai répondu à appel, c'était pour que vous, un jour, j'espérais vous rencontrer, vous fassiez les ambassadeurs et ambassadrices pour, si vous avez des contacts en Afghanistan, dire aux femmes qu'on ne les oublie pas. Alors ça peut être complètement dérisoire de faire des mosaïques, mais moi c'est ma seule façon, une de mes façons de m'exprimer, et c'est comme ça que je les soutiens, et j'espère que vous arriverez à leur passer le message. Et j'aimerais terminer cette intervention par deux citations. N'oublions jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Simone de Beauvoir. Et un petit clin d'œil à ma grande artiste quasi préférée, Nikki de Sainte-Falle. Je ne suis pas contre les mecs, mais je suis pour les femmes.
À travers cette émission, nous célébrons non seulement la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi leur espoir inébranlable pour un avenir meilleur. Nous devons nous rappeler que la lutte pour les droits des femmes afghanes n'est pas seulement l'affaire des femmes en Afghanistan, mais celle de tous et toutes partout dans le monde. Il est temps de leur tendre la main, de les soutenir dans leur lutte pour la liberté, l'éducation et l'égalité. Thank you. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Il est 14 heures dans nos locaux et il est temps de se dire au revoir. Si vous souhaitez nous aider à proposer du contenu sur votre quartier, si vous souhaitez réagir ou pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@radiomoulin.org ou à nous téléphonant au 06 42 73 80 32. On vous répondra avec plaisir. C'était Souleymane sur Radio Moulin et je vous dis à très bientôt.